Bonsoir à tous. Politiquement bas et moralement très grave, la colère du porte-parole du gouvernement contre le Sénat, qui saisit la justice dans les affaires Benalla. Les cas d'Alexis Kohler et de Patrick Strauda, proches d'Emmanuel Macron, sont aussi transmis au parquet. Édouard Philippe boycotte le palais du Luxembourg dans la foulée du quasi jamais vu pour ce genre de motif. Rien ne va plus entre les Républicains et la majorité présidentielle. Une histoire de date ce soir encore à Bruxelles, sommet européen surtout centré sur la date du report du Brexit. Theresa May réclame le 30 juin. Les 27 devraient refuser au-delà des européennes. Le 18-20 est en direct des Pays-Bas ce soir. Au sommaire également, Trump qui veut reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan. Décision courageuse, dit Netanyahou. Nous sommes à Jérusalem. Une redevance à Paris pour les scooters, vélos et trottinettes sans bornes d'attache. On vous expliquera. Les championnats du monde d'avion en papier. Et puis le temps du brouillard le matin, du soleil l'après-midi. Si ce n'est pas vraiment la guerre, ça y ressemble entre l'Élysée En Marche et le Sénat à majorité à droite. Le gouvernement ne digère pas la décision du palais du Luxembourg de transmettre à la justice les cas d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, il y avait peu de doutes, mais aussi ceux du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, du secrétaire général de la présidence, Alexis Kohler, et du chef de la sécurité, le général Lavergne. Les mots sont forts. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Les gestes aussi, même symboliques. Édouard Philippe a donc volontairement boycotter les questions au gouvernement cet après-midi au Sénat.
Oui, face au Sénat, c'est la revanche de la chaise vide. Édouard Philippe absent des questions au gouvernement tout à l'heure et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui n'ira pas demain à Lille à une conférence commune prévue avec Gérard Larcher. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, s'est lui bien rendu au Sénat cet après-midi pour y déverser sa colère.
Cette décision ne repose sur aucun fondement, ni en fait, ni en droit.
L'Assemblée des sages s'est mue, en tout cas une partie d'entre elles, son bureau, en tribunal politique. Je crois que dans la période que nous vivons, il est important que chaque institution joue pleinement son rôle de contrôle de l'exécutif, mais aussi du respect de l'équilibre de nos institutions et d'un certain sens de l'unité nationale et du moment que nous sommes en train de vivre en particulier.
Un exécutif appuyé par sa majorité, Stanislas Guérini, patron de la REM, dénonce un procès politique. Rien qui n'ébranle les sénateurs d'opposition, droit dans leurs bottes, comme le LR François Grosdidier.
Je trouve que ce sont des réactions un peu puériles qui traduisent une certaine immaturité du pouvoir qui n'en revient pas que, depuis le départ, le Parlement remplisse sa mission de contrôle.
Donc le bureau a bien fait, en tout cas pas de regret malgré cette espèce de tension qui s'installe.
Bien sûr, mais ça aurait été incompréhensible et même révoltant que ceux du bas de l'échelle soient traduits devant la justice et pas ceux qui sont les plus hauts fonctionnaires de l'État.
Droit dans ses bottes aussi ce soir, Gérard Larcher lui-même en phase, nous dit son entourage, avec ce qu'a décidé le bureau. Tant pis si l'exécutif ne tolère pas l'existence d'un contre-pouvoir.
Le Sénat, merci Élodie Forêt, poursuit donc sur la lancée du rapport accablant de sa commission d'enquête et transmet au parquet de Paris les déclarations de messieurs Benalla et Crase ainsi que des trois collaborateurs d'Emmanuel Macron qu'il soupçonne de ne pas avoir dit toute la vérité lors de leurs auditions. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Un signalement qui ne veut pas dire condamnation évidemment. Quels sont les scénarios possibles désormais ?
À l'heure où nous parlons, le procureur de Paris n'a pas reçu le courrier du président du Sénat, Gérard Larcher, mais quand ce sera le cas, le parquet ouvrira très probablement une enquête. Il n'existe qu'un précédent dans ce domaine, celui du pneumologue Michel Aubier. Il a été condamné à 20 000 euros d'amende en novembre dernier par la Cour d'appel de Paris pour faux témoignage. C'était devant une commission d'enquête du Sénat, déjà sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Le 16 avril 2015, le professeur de l'hôpital Bichat prête serment et déclare qu'il n'a aucun lien d'intérêt avec les acteurs économiques. Un an plus tard, le président du Sénat saisit la justice. Entre-temps, la presse a révélé que le pneumologue était depuis près de 20 ans médecin conseil de Total, payé 6 000 euros par mois. La procédure judiciaire a été assez rapide. Le professeur s'est pourvu en cassation. Alors dans le cas d'Alexandre Benalla, ce sera peut-être un peu plus compliqué parce que la justice enquête déjà sur le contrat russe et aura peut-être besoin de faire toute la lumière sur ses activités annexes à de l'Élysée avant de pouvoir juger d'un éventuel faux témoignage.
Alexandre Benalla qui est depuis hier soir sous le coup de deux nouvelles mises en examen. Merci Sarah Guibaudot pour d'autres violences en marge du 1er mai à Paris et pour un selfie avec une arme. C'était à Poitiers il y a 2 ans. L'autre actualité du jour est à Bruxelles. Sommet européen autour du report du Brexit à 8 jours du divorce théorique que Londres veut désormais reporter. Toute la question ou presque porte d'ailleurs sur la date de ce report. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Angélique Theresa May est venue dire au 27 ce qu'elle leur a écrit hier, que Londres demande un report de 3 mois et Bruxelles devrait lui répondre à nouveau qu'il n'y aura pas de délai au-delà des européennes fin mai.
Oui, car ce que l'on a compris ici, c'est que les Européens n'ont plus vraiment confiance, en fait, dans la capacité de la classe britannique à se mettre d'accord. Il faudrait un changement politique profond pour accorder à Theresa May un report sans vote positif, a même déclaré à son arrivée le président Macron. En clair, si elle réussit à faire basculer son Parlement, un délai devrait bien lui être accordé, mais pas 3 mois comme elle le réclame. C'est la date du 22 mai qui a été avancée par plusieurs sources diplomatiques cet après-midi, veille du début des élections européennes. Et cela pour éviter un éventuel casse-tête juridique. Le Royaume encore dans l'Union, mais sans élus.
Alors revenons à Theresa May, Angélique, seule, toujours aussi droite dans la tempête. Les 27 vont maintenant, eux, devoir harmoniser leur point de vue.
Oui, car une partie des chefs d'État et de gouvernement semble en fait se résoudre au no deal dès vendredi prochain, si l'accord n'est pas validé à Londres. Tandis que d'autres, comme Angela Merkel, la chancelière allemande, dramatisent l'enjeu.
Je pense, et chacun ici en est convaincu, qu'il s'agit effectivement d'un événement d'une portée historique. Et de ce fait, nous devons avancer prudemment. Et surtout, nous y consacrer entièrement, jusqu'à la toute dernière minute, de façon à assurer une sortie ordonnée de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.
Et l'on attend d'une minute à l'autre la conférence de presse du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, pour savoir ce sur quoi les Européens se sont mis d'accord.
Angélique Boin en direct de Bruxelles avec Christophe Papon. Merci à tous les deux. À Londres, une pétition en ligne pour que Theresa May stoppe le processus de sortie de l'Union a déjà recueilli plus d'un million de signatures en 24 heures. Le Parlement britannique est censé organiser un débat sur toute pétition à partir de 100 000 signatures. On suivra donc ça. Les autorités ont fait irruption dans un centre culturel français ce matin à Jérusalem. Elles sont venues faire annuler une manifestation organisée avec des Palestiniennes dans cette emprise française. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est cette déclaration de Donald Trump. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir.
Le président américain a déjà déplacé son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Il vient de se dire favorable ce soir à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan.
Oui, c'est le deuxième Big Bang dans la politique régionale des États-Unis après Jérusalem. Donc, le président reconnaît la souveraineté sur le plateau du Golan. C'est tombé dans un tweet pour des raisons de stabilité régionale, écrit le président américain. Alors, le plateau du Golan, c'est un territoire syrien conquis en 1967 par les Israéliens, puis annexé pour la communauté internationale. Il est considéré comme un territoire occupé. Il est aujourd'hui habité par de nombreux Israéliens qui ont développé des communautés et le tourisme, mais aussi par des druzes qui ont des liens très fort avec les Syriens qui vivent de l'autre côté de la haute grille de séparation. Pour l'Amérique, c'est un nouveau virage diplomatique. Il arrive au moment où les choses se cristallisent en Syrie. Pour le Premier ministre israélien, c'est un formidable cadeau électoral qui tombe à 3 semaines des élections législatives alors qu'il est au coude à coude avec l'opposition menacée par les affaires. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs déjà remercié Donald Trump qu'il va rencontrer lundi à Washington, sans doute pour l'officialisation de cette position unilatérale américaine.
Étienne Monin, merci, en direct de Jérusalem. Emmanuel Macron n'ira pas aux commémorations du génocide rwandais il y a 25 ans. Ce sera le 7 avril. Il était invité par Kigali, mais il sera représenté par le député de La République En Marche, Hervé Berville, qui est orphelin. Tutsi fait savoir l'Elysée ce soir. 15 000 personnes bloquées au Mozambique après le passage du cyclone sur des maisons des points hauts pour échapper aux inondations. Nous y étions hier soir. Elles ont besoin, ces personnes, d'être secourues rapidement, dit le ministre de l'Environnement, qui rappelle que chaque minute compte. Bilan, une semaine après la tempête, 242 morts au Mozambique, 139 au Zimbabwe voisin. Une énorme explosion dans une usine chimique de l'Est de la Chine, à 260 km au nord de Shanghai. La boule de feu de plusieurs dizaines de mètres de haut a provoqué un gigantesque incendie qui s'est propagé à plusieurs bâtiments alentour. Il y a au moins 6 morts et 30 blessés graves. En Italie, c'est toujours la sidération après ce qui aurait pu tourner au carnage. Ce chauffeur d'un bus scolaire qui a pris 51 enfants en otage près de Milan et qui a mis le feu au véhicule quand les élèves ont alerté la police. L'homme est d'origine sénégalaise. Il voulait venger les migrants morts en Méditerranée. L'Italie, aujourd'hui, Mathilde Imberti, rend hommage au sang-froid des collégiens.
L'un des héros de la prise d'otage s'appelle Rami, 13 ans, né en Italie de parents égyptiens. Bloqué à bord de l'autocar avec ses 50 camarades, il a réussi à cacher son téléphone portable au ravisseur, fait semblant de prier en arabe et appeler les secours. « J'aimerais que mon fils devienne italien », dit aujourd'hui le père de Rami. « J'y suis favorable », a réagi le vice-président du conseil, Luigi Di Maio. Son cas sera étudié, a abondé l'autre vice-président, Matteo Salvini. Quant au conducteur de l'autocar scolaire, d'origine sénégalaise, lui pourrait perdre sa citoyenneté italienne. Cela est rendu possible par le récent décret sécurité et immigration. La prise d'otage d'hier continue de créer l'émoi en Italie. Les motivations du conducteur restent confuses. Sa version change au fil des interrogatoires. Il aurait voulu venger les migrants qui meurent en mer. Les enquêteurs sont en train d'analyser une vidéo retrouvée chez lui, attestant la préméditation de son action. Ils excluent toute radicalisation de sa part. Il se disait d'ailleurs athée. Inconnu de l'antiterrorisme, il a été condamné en 2018 pour harcèlement sexuel sur mineurs. En 2007, son permis avait été suspendu suite à une conduite en état d'ivresse. Une condamnation qu'il n'avait pas portée à la connaissance de son employeur et de ses collègues qui l'appréciaient et restent abasourdis par le drame. À Rome, Mathilde Amberti, France Inter.
Le pilote du Boeing d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé peu après le décollage il y a 10 jours n'avait pas été formé sur le simulateur pour 737. L'homme de 29 ans devait recevoir une nouvelle formation à la fin du mois. Jakarta confirme par ailleurs qu'un troisième pilote se trouvait bien dans le cockpit du vol de Lion Air la veille de son accident en octobre. D'après les médias américains, il aurait permis d'éviter une catastrophe ce jour-là. 189 personnes sont mortes le lendemain au large de l'Indonésie. 158 dans le vol d'Ethiopian. En bref, encore à l'étranger, le chef de cabinet de Juan Guaido, arrêté la nuit dernière à Caracas, au Venezuela, par les services de renseignement fidèles à Nicolas Maduro. L'autoproclamé président par intérim prévient qu'il ne se laissera pas impressionner. Washington réclame la libération immédiate de son collaborateur. Et puis arrestation aussi à Sao Paulo, au Brésil, de l'ancien président Michel Temer. Il est sous le coup, lui, de plusieurs enquêtes pour corruption.
Le journal de 19h. Sur France Inter.
Le Conseil constitutionnel valide les examens osseux pour les jeunes migrants. Les sages qui étaient saisis par un jeune Guinéen reconnaissent néanmoins que ces tests peuvent comporter une marge d'erreur significative. Les migrants qui sont reconnus mineurs ont droit à une prise en charge et ne peuvent pas être expulsés. Le gouvernement veut par ailleurs relever le niveau de langue pour devenir français. Il promet aussi des procédures plus rapides pour les personnes qui remplissent déjà les conditions pour obtenir la nationalité française. Édouard Philippe insiste sur le fait que ceux qui professent des thèses racistes et antisémites ne sont pas dignes de devenir des citoyens français. Tout cela alors que la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme se poursuit. Le ministre de l'Éducation faisait le bilan de la plateforme de signalement qui a été mise en place en décembre, en complément d'une cellule d'alerte créée elle en juin 2017. Complément nécessaire pour Jean-Michel Blanquer, en visite aujourd'hui au collège Les Prunets de Villiers-sur-Marne et au micro d'Antoine Geoffin.
Une cinquantaine de cas ont été déclarés directement par les personnels. Je tiens à dire que ces cas n'étaient pas tous signalés et remontés par la cellule de veille et d'alerte. Donc il y avait besoin de cette voie-là. La grande majorité des cas sont remontés par les établissements. De temps en temps, nous avons des remontées directes. 16 de ces cas n'ont pas nécessité de traitement spécifique. 34 cas ont fait l'objet d'une réponse académique. Tous les établissements qui ont connu un acte antisémite visant un élève et pouvant porter atteinte à sa scolarisation, font dès à présent l'objet d'un audit. C'est donc, vous le voyez, un premier bilan qui est intéressant, parce qu'il nous permet de voir d'abord que les faits existent bel et bien, qu'ils ne sont pas trop nombreux, mais qu'ils sont quand même substantiels, et que le fait d'avoir ces signalements nous a permis de réagir et de mettre fin au phénomène à chaque fois qu'il nous était signalé. C'est une logique offensive plutôt qu'une logique défensive.
Un peu de clarté enfin sur les retraites. L'âge de départ reste 62 ans, a dit le haut commissaire chargé de la réforme, Jean-Paul Delevoye, ce matin sur Inter. Pas question de le modifier, assurait aussi Édouard Philippe hier, tout comme sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud, aujourd'hui. Voilà qui est nettement plus clair en effet. Les candidats En Marche à la mairie de Paris, eux, ont été reçus par la direction du parti présidentiel. Stanislas Guérini a informé des règles du jeu, les députés Cédric Villani et Hugues Ranson, le sénateur Julien Bargeton et l'élu du 4e arrondissement Anne Le Breton, ainsi que les deux ministres Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Le porte-parole du gouvernement laisse entendre qu'il est le mieux placé dans cette course au municipal. Alors, à quoi servait cette réunion ?
À calmer le jeu. Les esprits étaient en train de s'échauffer, vous savez, entre les 5 candidats déclarés de la République En Marche pour la mairie de Paris, auxquels il faut ajouter Hugues Ranson, effectivement, qui est intéressé, mais qui officiellement n'a pas encore dévoilé ses intentions. En fait, depuis des semaines, ils se jaugent, tous ces candidats, ils s'observent, chacun commande des petits sondages en catimini qui lui sont favorables. Bref, il était grand temps de remettre tout le monde autour de la table. Pour discuter, certes, mais surtout pour ne rien décider. Quel sera, par exemple, le processus de sélection du candidat ? à un an des élections municipales, ça n'a pas été tranché. Quand sera désigné celui ou celle qui fera campagne? Le calendrier reste pour l'instant très vague. Rendez-vous après le scrutin européen. Mais peu importe. Visiblement, en tout cas d'après plusieurs participants, Benjamin Griveaux, vous en parliez, le porte-parole du gouvernement, a tout fait ce matin pour montrer à ses concurrents qu'il était prêt, lui. Et ce, dès maintenant. Sa sortie lors du prochain remaniement, dans quelques jours, tout au plus une semaine, aurait d'ailleurs été déjà actée évidemment par l'Élysée, sauf si Paris se retrouve à nouveau ce week-end à feu et à sang.
Karine Bécard, précisément, le nouveau préfet de police de Paris est en place et déjà sous pression, installé ce matin par Christophe Castaner, avec comme consigne de sécuriser Paris dès samedi, sans hésitation ni demi-mesure, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, qui lui demande impunité zéro et qui précise que les soldats de Sentinelles ne doivent pas participer au maintien de l'ordre. Les contraventions pour participation à une manifestation interdite passent par ailleurs dès aujourd'hui de 38 à 135 euros. Le décret est passé au journal officiel. Et puis toujours sur le mouvement des Gilets jaunes, la ville de Paris accorde une aide de 2000 euros aux 7 kiosquiers incendiés samedi dernier sur les Champs-Élysées. La mairie de la capitale qui met en place une redevance sur les engins en libre service, je vous le disais en titre, les scooters, vélos et trottinettes que chacun peut utiliser en payant et laisser garer un peu n'importe où. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir.
Expliquez-nous comment cette redevance va fonctionner et pourquoi.
Eh bien, l'objectif est clair pour la mairie de Paris. Créer une ébauche de régulation dans un domaine qui en est totalement dépourvu. Il suffit de se balader un peu dans la capitale pour voir ces trottinettes garées en plein milieu du trottoir, ces vélos échoués devant des portes cochères, voire carrément sur la chaussée, sans compter, bien sûr, les dangers de la cohabitation avec les automobilistes et les piétons. Alors, pour l'instant, il y a 15 000 véhicules en libre service à Paris, scooters, vélos et surtout donc ces trottinettes électriques qui sont en train de prendre l'ascendant. Désormais donc les opérateurs devront se déclarer en mairie, c'est inédit à Paris, et payer cette fameuse redevance. Pour les scooters, ce sera 60 euros par an et par appareil, 50 euros pour une trottinette, 20 pour un vélo, bien moins cher afin, nous dit-on, de favoriser la mobilité active, en clair celle où l'on pédale pour avancer. Détail important, ces montants s'appliquent à une flotte inférieure à 500 véhicules. Au-delà, ils augmentent sensiblement, une forme de régulation quantitative pour éviter une prolifération anarchique. Dans les mois à venir, on devrait voir 40 000 véhicules en libre service dans les rues de la capitale. À terme, la mairie de Paris promet des places de stationnement dédiées.
Sébastien Sabiron, merci. Le président de Technip FMC va quitter ses fonctions en mai avec 14 millions d'euros d'indemnités, 2 ans après le rapprochement des deux entreprises parapétrolières. Et alors que le groupe accuse une perte record l'an dernier de près de 2 milliards de dollars, c'est inacceptable pour le patron de Bercy, Bruno Le Maire. On termine avec un championnat du monde pas comme les autres, de la haute voltige, sans kérosène, sans télécommande, sans ventilateur. Le championnat du monde étudiant de lancer d'avions en papier. Une manche qualificative était organisé aujourd'hui à la fac de droit de Limoges. C'est du très, très sérieux, Germain Treille.
Ah mais oui, franchement, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Il y a un record à battre.
Un record de distance, c'est de 69 mètres.
Avec un avion en papier.
69 mètres avec un avion en papier.
Mais c'est dingue.
Ouais, c'est une folie.
Bon, ici, les étudiants sont encore loin de le battre.
Là, sur la région, en ce moment, ça tourne un petit peu entre 25 et 30 mètres.
Pas mal.
C'est déjà très, très bien.
Les compétiteurs s'inscrivent. Atelier pliage.
C'est pas facile du tout.
C'est super facile, en vrai.
C'est même plutôt un beau merdier pour faire 15 pauvres mètres. Mais ça va le faire.
Futur champion du monde alors ici, non ?
Peut-être, on espère. Ouais. Au moins un futur champion de Limoges déjà.
Ça rappelle des souvenirs, non ?
À mon avis, il faut juste se rappeler voilà, ce qu'on faisait quand on était enfant, nos bons souvenirs et tenter l'expérience.
Un jeune homme se présente, son avion en papier semble parfait.
Ouais, je suis plutôt confiant.
Il y a une préparation mentale avant ?
Ouais, préparation physique, préparation mentale, je me suis beaucoup entraîné pour...
Alors vas-y, allez go.
Allez pour Polo, on est avec toi là.
Bof, pour Polo qui ne dépasse pas les 10 mètres, il n'ira sans doute pas à la grande finale internationale en mai en Autriche, où s'affronteront les meilleurs Top Guns de papier.
69 mètres en avion en papier, record à battre, reportage signé Germain Treille, alias Maverick de France Bleu Limousin. Du vol au vent.
La météo. Avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Sébastien.
Les températures sont à la hausse.
Effectivement, après une matinée bien fraîche, les températures cet après-midi ont poursuivi leur hausse et le seuil des 20 degrés a été atteint de la basse vallée du Rhône aux confins de l'Ardèche. Pour exemple, nous avons relevé 20 degrés à Nîmes, 21 à Monclus dans le Gard, ainsi qu'à Grospierre en Ardèche. Et cette hausse va continuer demain avec des maximales comprises entre 15 et 23 degrés. Prévoyez 15 à Brest, 16 à Rouen, 18 à Paris et du côté de Dijon. Comptez 20 degrés à Cognac, Perpignan et Toulon, 22 dans la cité phocéenne et jusqu'à 23 degrés dans le département du Gard.
Et côté ciel, le soleil sera encore au rendez-vous demain.
Absolument, un anticyclone ne bouge pas. L'ensoleillement sera une nouvelle fois généreux dans la plupart des régions. Seules les côtes de la Manche conserveront une bonne couverture nuageuse. Dans tous les cas, le temps restera sec et le déficit en eau constaté dans de nombreuses régions va forcément s'accentuer.
Jean-Pierre Hameau, merci Météo France.